Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
L'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 11, après nous avoir parlé de la parole d'Abel, d'Enoch, de Noé, consacre une partie importante à Abraham. Nous n'en retiendrons qu'un petit morceau de ce texte, parce qu'il est trop riche et que nous ne saurions dire tout ce que Dieu nous révèle. Mais je commence par le lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et vous avez là, dans ce texte, le titre de ce message, l'obéissance. Il nous faut aller à la découverte de son contenu. Et cette fois encore, revenir au livre de la Genèse, qui donne beaucoup de détails, que résume par ces quelques lignes lues l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 12 de la Genèse, l'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. J'ai dit que, après les racines venait le tronc. Et si juste de cette image, c'est que, effectivement, l'obéissance est peut-être la partie la plus importante, visiblement, de l'arbre de vie qu'est la foi en Jésus-Christ, ou qu'est l'histoire de tous ceux qui ont obéi après avoir entendu Dieu leur parler. Obéissance, mais que signifie-t-elle en vérité? El-Sefidi signifie d'abord, et il faut le souligner, la perte de sécurité. Et si je dis que l'obéissance dans l'Épître aux Hébreux a un nom tout à fait adéquat, savoir le tronc, c'est que dans l'image même d'un arbre, le tronc est cette partie de la vie de cet arbre qui s'élance, qui quitte la terre. Quand même, il en est une expression, puisqu'il a des racines plongées, plongeantes en profondeur. Mais il va être livré à l'aventure. Et cela n'est pas rien pour nous qui sommes appelés à obéir que de quitter nos sécurités. Parce que nos racines, elles nous apparaissent déjà participantes de cette insécurité. Ça ne tient sur rien, la parole, la justice, l'espérance, le jugement. Ça ne tient sur rien, ça tient sur Dieu, qui parle, qui révèle, qui offre, qui dit. Mais où sont les sécurités? Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il offre. Il faut la foi. Et l'on comprend de mieux en mieux que dans l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre 11, la foi soit le leitmotiv, le constant rappel. C'est par la foi qu'Abraham partit. Et l'insécurité est d'autant plus grande que le texte dit bien « Va, va dans le pays que je te montrerai. » Où est-il? Quel est-il? Comment sera-t-il? On ne le sait. Insécurité supplémentaire. Oui, bien sûr. Reconnaissons-le d'emblée. Dieu n'est pas cruel. S'il nous demande de marcher par la foi, il nous donne des appuis quand même et en cours de route. Et au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous marchons, parce que vous le découvrez, si tant est que vous ne l'ayez pas encore compris, mais avant nous étions dans les racines, et maintenant que nous sommes dans le tronc, alors on mesure que un tronc ne peut pas rester ce qu'il est, c'est que l'arbre serait en train de mourir. Un tronc doit grandir, grossir, prendre de l'importance. Et c'est pourquoi la foi, elle est toujours liée à l'aventure, à la marche. Pas par la tête, avons-nous déjà dit. Par les pieds, nous marchons. Et quand il parle à Abraham, mais nous n'avons pas la possibilité de le découvrir dans tous les chapitres qui vont lui être consacrés dans la Genèse, c'est au fur et à mesure qu'il avance, qu'il précise ce que sera ce pays. Mais quand Abraham lui-même en parle, il reconnaîtra que c'est une terre étrangère. Il n'habite sous des tentes. Et puis, comme seule sécurité, si je puis dire, c'est qu'il a avec lui les héritiers de la même promesse. Donc, ce que nous avons par la foi n'est que préfiguratif. Certes, et il va le découvrir au fur et à mesure qu'il avancera, cette terre dite de Canaan va devenir sa terre. Mais pour l'instant, il y est en étranger. Pour l'instant, il y est dans une situation de stabilité relative, puisqu'il vit sous des tentes, prêt à devoir déloger, prêt à devoir lever le camp. La seule sécurité, finalement, ce sont ses frères. Et vous comprendrez que d'emblée, je transpose dans notre réalité. Car marcher par la foi aujourd'hui, c'est marcher, et le texte de l'Épître aux Hébreux le dit, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Parce que nous sommes de ceux qui sont prêts à déloger. Pour reprendre un des mots de l'Écriture, nous tabernaculons. Nous ne sommes pas installés. Nous sommes sous tente. Et d'un instant à l'autre, cette tente peut être enlevée. Avec la promesse, quand même, que cette terre, un jour, sera nôtre. Un jour, nous l'habiterons, totalement renouvelée. Car Dieu a promis qu'il y aurait de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habiterait, où il n'y aurait plus de séparation. Alors nous sommes sur la terre, mais elle nous est encore étrangère, ce n'est pas notre propriété. Un jour elle le sera. Un jour nous l'habiterons complètement renouvelée, complètement transformée. Alors nous saluons ce jour, pas à cause des promesses de Dieu, mais nous n'avons comme sécurité que ces promesses. Et nous n'avons de sécurité que la perspective dont le Christ nous a donné l'assurance, c'est qu'il y avait une maison qui nous attendrait, et non plus une tente dont nous devrions déloger à tout instant. En fait, la seule sécurité dans la foi, vous le comprenez, ce sont les frères et les sœurs en Christ. Ce sont ceux qui partagent avec nous la même promesse. C'est pourquoi, dans ce sens, hors l'Église, je ne dis pas de salut, parce que je n'aime pas beaucoup cette parole, tant on sait ce qu'on en a fait. Mais hors l'Église, pas de sécurité. C'est les frères et les sœurs qui sont notre sécurité. C'est pourquoi Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Il leur donne une famille. Il leur donne des compagnons, des compagnes, car il n'est pas bon que l'on soit seul. Et nous mesurons, si nous ne l'avons peut-être pas mesuré jusqu'à maintenant, le prix que Dieu attache et que nous avons à attacher à la vie communautaire. On ne peut pas vivre sans l'Église. Et les chrétiens qui vivent tout seuls, sont menacés. Ou bien menacés d'orgueil et de suffisance, ou bien menacés d'être renversés, non, Dieu veut nous ajouter à l'Église et qu'avec elle, nous persévérions dans la prière, dans la doctrine des apôtres, dans le partage du pain, dans l'amour fraternel. Ça s'inscrit dès le début du tronc. C'est la vérité première qu'il fallait souligner. Et puis il en vient une seconde. Alors nous aimons beaucoup l'entendre. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À la vie du tronc, la vie de l'obéissance, la vie fraternelle, la vie dans la foi. C'est une bénédiction que Dieu promet à la personne, à l'individu, mais qu'il promet aussi, je rendrai ton nom grand, à la famille qu'il va constituer, car nous donnons notre nom à la famille que nous constituons. Et ce n'est pas rien que de donner son nom. Car donner son nom, c'est donner la totalité de ce qu'on est et de ce qu'on a. Ce qu'on est, à cause de la vocation, de la foi. Ce qu'on a, à cause de ce que Dieu nous promet. Car nous n'avons que ce que Dieu nous promet. L'homme ne peut rien s'attribuer à lui-même qui ne lui soit venu du ciel, dit une parole. Et c'est cela que nous avons à donner avec notre nom, si nous sommes des hommes et des femmes de foi. Donner son nom, on le donne alors à son épouse, on le donne à ses enfants, on le transmet de génération en génération. Ce n'est pas rien notre nom. On ne peut rien donner de plus que son nom. Et on donne tout quand on donne son nom. Et pour toujours. Et puis, il ajoute, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Car ça ne s'arrête pas à notre famille, ça se transmet à d'autres familles, ça se transmet à toutes les nations. L'Évangile, cette bonne nouvelle, est universelle. Et si vous entendez encore, quelle merveilleuse réalité qu'est la promesse faite à celui qui obéit, Dieu lui dit, je me solidariserai tellement à toi que ceux qui te béniront seront bénis et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu ne maudit personne, mais si quelqu'un maudit son frère, il attire sur lui la malédiction. Et vous savez que maudire, c'est mal dire déjà. Indépendamment de toutes les imprécations dont on pourrait accompagner ce mauvais propos. Alors prenons garde. Bénissez, recommandera l'apôtre. Bénissez, ne maudissez pas. car nous sommes appelés à être une source de bénédiction, même et surtout sur ceux qui nous font du mal. Nous rendons le bien à ceux qui nous font du mal, parce que nous sommes là pour bénir, et que c'est là notre vocation, et que c'est là notre obéissance. Et nous mesurons que l'obéissance, elle est déjà justement dans ce qui sort de la bouche, dans la manière de regarder, dans la manière de rencontrer l'autre, car je veux le bénir, je veux être pour lui une source de bénédiction. D'où l'importance du témoignage chrétien. Et c'est par ce témoignage que le tronc prend de l'élan, de la hauteur, de l'épaisseur, de la solidité. Plus je bénis, plus je suis en source de bénédiction, plus je suis béni. Oui, je sais. Nous sommes tous calculateurs, hein. Et j'entends déjà quelqu'un me dire, parce que nous sommes intelligents et que nous savons très bien réfléchir et que dans cette petite boîte, il y a une logique, prête à faire des déductions. Parce que quand Abraham s'entend dire tout cela, bien sûr qu'il pourrait se dire « Formidable, merveilleux, fantastique Seigneur, oh mais que tu es grand dans ta vision des choses. » Seulement à cause de la petite boîte qui est là, il se pourrait que Abraham dise « Oui, oui, très bien, très bien. Mais moi, qu'est-ce que j'en aurais ? Parce que si j'entends bien ce que tu me dis, c'est les autres, c'est pour les autres. Mais tu sais, toutes les familles de la terre, moi je suis là, les familles de la terre, c'est pour dans 1000, 2000 ans, qu'est-ce que j'en aurais ? Ça passera par moi, mais ça jaillira sur les autres et moi. Oui, la marche par la foi. Un acte d'obéissance avec des belles promesses. Mais il y a un vieil adage de ce pays qui dit que les belles promesses, ça rend les fous joyeux. Oui, oui, oui. Moi, je n'en aurai rien, c'est mes descendants qui auront. C'est eux qui vont goûter. C'est eux qui vont connaître. Moi, je dois croire. Et c'est vrai que, à l'autre bout de l'histoire, nous connaissons. C'est vrai. Car nous avons la démonstration que ce qui a été dit à Abraham, qui n'avait pas de fils, qui s'est mis en marche sur cette seule promesse de Dieu, j'ose dire qu'Abraham n'en a rien vu. Rien vu de toute cette histoire formidable, fantastique, glorieuse. Il a dû la croire. Et c'est là où notre petite boîte nous joue beaucoup de tours. Parce que nous aussi, nous disons souvent, « Oh oui, tu promets un tas de choses, Seigneur. Mais moi, j'aimerais voir, j'aimerais toucher. » Le Seigneur te dit, « Marche par la foi. » Oui, mais alors c'est les autres qui ? Et puis moi ? Et puis moi ? C'est le compte à rebours, toujours. Et puis moi ? Eh bien, c'est ça la foi, si tant est que vous n'ayez pas encore saisi ce qu'elle était. La foi, elle vit justement de ce qu'elle ne voit pas, mais qu'elle croit. Et ce qu'on voit, alors qu'est-ce qu'on voit chez un homme de foi? Est-ce qu'on voit la parole dont il vit? Est-ce qu'on voit l'espérance qui l'anime? Est-ce qu'on voit la justice à laquelle il a adhéré? Est-ce qu'on voit les promesses que Dieu lui a faites? Non. On ne voit rien de tout ça chez un homme de foi. On voit sa vie souvent mise à l'épreuve, souvent éprouvée dans la foi. Mais justement, si c'est la seule chose qu'on voit, il serait important que la vitrine soit importante. Quelle vitrine offrons-nous aux autres? Vous mesurez la vertu, et vous savez que ce mot, dans sa racine étymologique, veut dire la force, la virtus en latin. Est-ce que vous savez que la vertu de l'obéissance, c'est une démonstration fantastique? Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous sommes dans l'obéissance. Et nous allons le découvrir. Cette vertu d'obéissance, c'est souvent une épreuve. Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres où nous devons être la lumière. Et c'est difficile d'être la lumière dans un monde de ténèbres. Dans un monde de mensonges, nous devons être la vérité. Dans un monde d'injustice, nous devons être justes. Dans un monde de haine et d'égoïsme, nous devons être charitables et aimants. Dans un monde de désespérés, nous devons être remplis d'espoir et d'espérance. Oui, nous sommes le contraire de ce qu'est le monde. Les chrétiens devraient être donc des gens sur le passage desquels les gens devraient se retourner. Qui c'est celui-là? T'as vu? Mais incroyable! Unique au monde! Jamais rencontré! C'est ça un chrétien! Un chrétien dans l'obéissance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Est-ce qu'on ose le dire? Je crois que c'est l'occasion. Effectivement, l'histoire des chrétiens est une histoire un peu dramatique. Elle l'est autant, à certains égards, que celle de nos bien-aimés frères juifs. Dramatique en ce sens que, quand on connaît l'histoire de l'Église, quel scandale, souvent. Et, pour n'évoquer qu'un aspect de cette histoire, mais en relation avec le thème de ce matin, il est vrai qu'au XVIe siècle, l'Église a abouti, et pour cause, à une grave crise qu'on a appelée la réformation. Pourquoi? Parce que on avait remplacé petit à petit le salut par la foi par un salut par les œuvres. On payait son salut. et le scandale de la réforme. Ça a été un scandale pour d'aucuns, et ça l'est même encore pour certains. Combien il était urgent et nécessaire, et combien il a été, par le témoignage d'un Luther, d'un Calvin, de tous ceux qui ont été les réformateurs, et avant eux, il y a eu Jean Hus et d'autres. Eh bien, ce scandale, béni soit Dieu, a gagné toute l'Europe. Et puis vous savez comment il a été réprimé, hélas, souvent dans le sang. Parce que tout chrétien fidèle est un chrétien qui va être éprouvé. On aime mieux la religion que la foi dans la parole de Dieu. Et on y retourne souvent, et on y est même tellement retourné depuis la réforme que, et c'est cela ce que je voulais souligner, et je crois que la misère de l'Église depuis un ou deux siècles, c'est précisément qu'elle prêche le salut par la foi, alléluia, c'est la vérité, mais où est l'obéissance qui devrait l'accompagner? Comme si on avait oublié le message biblique par excellence. Et là, si je me mettais à citer tous les textes, tous les passages d'Écriture où Dieu attire l'attention de ceux qui lisent sa parole et veulent la vivre. Oui, tous les passages où il est question de l'obéissance, on y passerait la matinée. Mais je me contente de 4 textes. Le premier, dans le Deutéronome, au chapitre 30, verset 10. Je prends déjà le verset 9. « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements, ses ordres, écrits dans le livre de la loi, oui, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et je souligne à dessein cette vérité fondamentale, savoir que Dieu prend plaisir à notre bonheur lorsque nous obéissons. Or, que faisons-nous lorsque le bonheur n'est pas ce que nous avions cru qu'il serait? Est-ce que nous nous demandons, éclairés par cette parole, si peut-être nous sommes sur un chemin de désobéissance? Parce que Dieu dit qu'il prend plaisir à notre bonheur et non pas à notre malheur. Alors quand celui-ci surgit, est-ce que nous nous interrogeons? Bien sûr que le malheur peut être une attaque de l'ennemi. Et c'est très souvent que les chrétiens, effectivement, sont attaqués par l'adversaire. C'est pour ça que les chrétiens sont des hommes et constituent une communauté d'hommes et de femmes éprouvés, parce que le prince de ce monde ne supporte pas que dans ses ténèbres on mette la lumière, que dans son mensonge on apporte la vérité. Mais c'est un peu facile de dire que c'est le diable qui nous attaque. Et si nous commencions par où la Bible commence, savoir par nous interroger si, peut-être, nous serions sortis du chemin de l'obéissance à la parole. Et puis, un second texte, dans 1 Samuel 12, si vous craignez l'Éternel, c'est au verset 14, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu. Et je dis ce texte important, pourquoi? Parce que je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes, d'abord qui ont la pensée que Dieu les a abandonnés, ou alors d'hommes et de femmes qui avouent qu'ils ont de la peine à trouver la communion avec Dieu. Alors, ils se demandent, est-ce que Dieu me rejette? Est-ce que Dieu ne s'occupe pas de moi? Et ils s'attendent, de notre part, à une intervention, et ils vont même jusqu'à nous dire, j'ai la pensée que si vous m'imposez les mains, je vais retrouver la communion avec Dieu. C'est touchant de penser que on nous attribue de telles bénédictions possibles. C'est vrai que nous sommes appelés à être des sources de bénédictions pour les autres. Donc, quand on nous demande de prier pour quelqu'un, même quand on nous demande un geste de bénédiction, pourquoi pas? Nous l'accordons volontiers comme serviteur de Dieu. Mais, si vous écoutiez ce que dit ce texte, si vous m'obéissez, si vous écoutez ma voix, si vous n'êtes point un rebelle, vous vous attacherez à moi. La récompense d'aimer Dieu, c'est de l'aimer davantage. C'est aussi vrai, du reste, avec son épouse ou son mari. La récompense d'aimer, c'est d'aimer mieux. Alors, la récompense d'obéir, c'est d'aimer Dieu. Alors, c'est vrai que l'amour de Dieu n'est pas naturellement dans notre cœur. C'est le fruit de l'esprit, l'amour. Mais ça se cultive, ça s'arrose. Et ça se cultive et ça s'arrose par l'obéissance. L'obéissance à la voix, à la parole de l'Éternel. Alors le tronc prend de l'importance, il prend de l'élan, il a de la hauteur. Et puis il y a un troisième texte. 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Est-ce que nous mesurons là encore quelle richesse accompagne l'obéissance? Hélas, nous remplaçons la richesse de l'obéissance par des sacrifices. Si j'ose dire, c'est nous qui allons payer, au lieu que nous le soyons. Parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu promet la bénédiction à celui qui obéit. Et nous nous disons, il faut payer. Il faut faire des sacrifices pour Dieu. L'évangile à l'envers. Et Dieu sait si on le prêche, cet évangile-là. Non, il est bien question de l'obéissance et non pas de tellement de sacrifices. Alors cela signifie, bien sûr, et j'en viens au dernier texte que je veux citer, mais cette fois dans le Nouveau Testament, et vous ne vous étonnerez pas, dans la bouche de Jésus, au chapitre 7 de l'Évangile de Jean, cette parole saisissante, si quelqu'un veut faire sa volonté, donc la volonté de Dieu. Jésus ayant dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Les Juifs lui disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'est très bien d'étudier. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'étude conduise à ce que Jésus dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Et il ajoute, celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Alors la découverte de ce quatrième texte, c'est qu'en fait, l'important c'est de mettre en pratique ce que Dieu dit. Et pour cela, c'est d'obéir. Et la gloire accompagne cette obéissance. Donc, vous le saisissez, et je le dis parce que je voudrais que cette vérité vous donne du tronc, de la solidité dans l'espérance, de l'élan vers le ciel, de la hauteur sur cette terre. On en reste si souvent au ras des pâquerettes quand on n'est pas dessous. Si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, eh bien, il s'agit d'obéir à la parole et non pas à l'opinion. L'opinion publique. Il s'agit d'obéir à la parole et non pas à votre conscience, si souvent élastique. Il s'agit d'obéir à la parole et non pas à la tradition. Car c'est une des grandes dominations sur les chrétiens, c'est la tradition. Il y en a d'excellentes, celles qui nous ramènent à la parole. Mais il y en a qui ont pris la place de la parole, tellement qu'on est plus inféodé à la tradition de l'Église qu'au Seigneur de l'Église. Et c'est bien le reproche de Jésus aux pharisiens. Finalement, il s'agit d'obéir à la parole et non pas à l'homme que je suis, à la chair. Cela étant dit, je reviens, quand même je ne m'en suis pas éloigné, au texte de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alors c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais alors cette attente, il attendait. Est-ce que ça veut dire ce qu'ont compris certains chrétiens? Parce que quand on fréquente certaines églises, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais il semblerait que les chrétiens sont simplement des gens qui attendent le salut. Alors, en attendant, ils chantent des cantiques. Très beau, très émouvant. De dimanche en dimanche, ils les répètent. Et de dimanche en dimanche, quand on les fréquente assez longuement, on découvre qu'ils disent toujours les mêmes choses. D'abord, on pourrait leur demander s'ils ne pourraient pas chanter de nouveaux cantiques. Parce qu'ils doivent avoir changé de pays, à force de marcher, avoir changé de climat. Ils sont en voyage, puis ils ont toujours les mêmes habits, et ils ont toujours la même odeur. On aimerait leur dire que, hein, il faudrait se mettre en marche, il faudrait partir. Alors, tant mieux qu'ils soient confortablement assis, les bancs d'église ne sont pas toujours agréables. Et on aimerait bien que parfois les bancs d'église soient un peu plus confortables. Mais pas seulement les bancs. On aimerait des chrétiens plus confortables. C'est-à-dire des chrétiens qui vous confortent. Qui vous réconfortent. Et pour cela, des chrétiens qui ont du poids. Oui, je sais, je n'ai jamais oublié la prière d'une femme de l'Ardèche qui, dans sa paroisse, trouvait que les conseillers presbytéraux étaient des hommes de poids, mais elle les trouvait un peu lourds, non pas seulement d'allure, mais peut-être de vision et de vocation. Alors, dans sa prière, je dois avouer que ça nous a fait tous éclater de rire, parce que c'est bon d'éclater de rire quand on prie. C'est que Dieu est réjoui. Eh bien, elle disait dans sa prière, « Oh Dieu !» avec son accent de l'Ardèche, « Tu vois, on a au milieu de nous des grosses bûches faisant du petit bois. » Faisant du petit bois. Mais ça brûle mieux. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, et c'est la seconde partie et la dernière partie de mon message, j'aimerais m'attarder quelques instants à ce verbe « il partit ». Alors, il faut revenir au texte de la Genèse. Il s'en est allé. Est-ce qu'on oublie de remarquer, et je vous le fais remarquer maintenant, c'est que le chapitre 12 de ce livre de la Genèse est précédé d'un texte, les versets 31 et 32, qui font partie déjà du chapitre 12, mais qu'on oublie toujours de lire. Térakh, 10 verset 31, prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Mais ce que le verset 5 nous révèle au chapitre 12, c'est que là, à Charan, ils restèrent et ils acquirent beaucoup de biens. Ils auraient donc un déménagement d'autant plus embarrassant à emporter. Il faudra au moins une ou deux déménageuses. Et pourquoi? Eh bien, parce que je le crois, le texte dit, ils y habitèrent jusqu'à l'heure où Térakh mourut. Ce qui, je crois, laisse entendre que la marche d'Abraham est restée une marche interrompue, paralysée par Térakh. Alors, je pourrais ouvrir tout un chapitre. À mon âge, j'ose. J'ai peur de ce que dans l'Église on appelle la gérontologie. En français plus habituel, j'ai peur des anciens qui bloquent tout. Il y a tant de pères qui, dans l'Église, sont de bons pères, mais qui, à cause de leur expérience et du poids de leur expérience, finissent par prendre leur expérience et leur vision des choses pour la voix et la pensée de Dieu. Et je crois que il est resté prisonnier, là, à Charan. Alors, bien sûr, il s'est enrichi matériellement. Mais là, n'était pas le lieu. Charan n'était pas Canaan. Il a fallu que Térakh meure pour que Abraham puisse reprendre sa route. Et moi, j'entends encore des frères me dire « Oh, on attend que certains anciens s'en aillent pour réformer l'Église, parce que tant qu'ils sont là, rien ne bouge. » Alors, nous devons beaucoup de respect aux anciens, je m'empresse de le dire, nous devons honorer les vieillards. Les Africains savent très bien nous l'apprendre. Ils disent que les vieillards, c'est la mémoire de la famille. C'est très beau, mais à condition que les vieillards restent des hommes de foi et non pas simplement des hommes de poids. Des hommes de foi? Parce que pendant qu'il est là à 40, pardonnez-moi de dire, il n'y a pas de nouvelle révélation. Dieu ne nous traîne pas. Il nous appelle à marcher par la foi. Et pour revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure, parce que je crois qu'il n'est pas inutile de répéter certaines choses, il nous appelle à marcher par la foi, c'est-à-dire à ne pas être de ceux qui marchent par la vue, même par la vue des aînés, qui parfois nous bouchent la vue. Si tu n'es pas prêt à quitter ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu n'es pas digne d'être mon disciple. C'est quand même une parole de Jésus-Christ. Alors, elle vient en équilibre à « honore ton père et ta mère ». Parce que la vérité, c'est pas des formules, c'est une personne. Et qui, dans une situation, dit ceci et dans une autre, dit cela. Alors, ce que l'on a fini par inventer, je dis bien non inventer, c'est qu'on devait renoncer à la terre pour gagner au ciel, abandonner le péché pour obtenir la grâce. Alors, on marche dans le ciel en idée, puis en réalité, on est assis dans des fauteuils évangéliques sur la terre. Attention, c'est absolument faux. La nature ne quitte pas le péché, elle y est accrochée. Non, la nature ne peut pas abandonner le péché. C'est l'Évangile qui ôte le péché. Ce n'est pas par les œuvres qu'on parvient au ciel. C'est le ciel qui nous donne ce qui est nécessaire pour aller jusqu'à lui. C'est le ciel qui nous offre la grâce. C'est Jésus-Christ qui communique la vie. Et je crois que Abraham est resté prisonnier à 40 à cause de son père. Il a fallu qu'il attende que le père meure pour pouvoir se remettre en marche, pour pouvoir connaître des bénédictions nouvelles. Et puis, vous allez découvrir très vite que d'autres épreuves vont l'attendre. Pourquoi ? Parce que la vie dans la foi, c'est une vie d'épreuves. C'est comme une croissance. On est en constant dépouillement de ce qu'on était pour devenir ce qu'on est ou ce qu'on doit être. Et on le salue à l'avance par la foi et on s'y adonne tout entier. Alors si vous continuez la lecture, et je vous invite à le faire parce que je m'arrêterai très tôt, étant donné qu'on ne peut pas dépasser la faculté d'écoute qui est la vôtre au-delà de ce qui est humain. Alors, je vais m'arrêter. Eh bien, au verset 6, il nous est dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Mais l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je crois que ça, c'est la seconde épreuve d'Abraham. Les Cananéens, les occupants du pays, les païens, les hommes et les femmes qui nous entourent, ils sont souvent ceux qui nous retiennent, ceux qui bouchent la route. Pourquoi ? Parce que devant eux, nous devenons soudain, non pas hommes de foi, mais hommes et femmes de timidité. C'est les autres qui coupent votre élan. Pardon, regardez le texte. Oui, les Cananéens sont là. Oui, c'est vrai que C'est difficile d'affronter la réalité avec tout ce qu'elle nous offre de résistance. Mais le texte dit tout aussitôt, les Cananéens étaient là dans le pays, mais l'Éternel apparut à Abraham. Dieu est là. Alors pas d'esprit de timidité, pas de crainte, Dieu marche avec nous. Est-ce que nous voulons regarder à lui ou à la difficulté? Et puis viennent ces versets 9 à 16, ou à 18. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et vous savez ce qu'il va faire? Craignant Pharaon ayant remarqué la beauté de Sarah, il va dire à Sarah, pour qu'il me traite bien, dis que tu es ma sœur. Menteur. Alors, verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle, car elle fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il reçut en retour des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit que c'était ta femme? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit que c'était ta sœur? Je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, va-t'en !» Quelle page terrible dans l'histoire d'Abraham, qu'on n'aime pas évoquer avec plaisir. Mais ce qui a arrêté Abraham dans sa marche et dans son obéissance, c'est l'épreuve de la famine. Il a marché tout à coup par la vue. Et c'est là, notre tendance, c'est de nous laisser impressionner par les circonstances adverses. Alors on se laisse arrêter par ces circonstances et on devient adultère spirituellement et de beaucoup de manières. On ment, on trahit, on n'ose plus s'exprimer, on n'ose plus dire la vérité dans un monde de mensonges. Alors bien sûr, on réussit socialement peut-être. Il est riche. Il est très riche. Oui, mais à quel prix? Dans son foyer, il a livré sa femme à l'adultère. Et à quel prix? C'est dans la bouche d'un païen qu'il s'entend dire « va-t'en », ce que Dieu lui avait dit tout au commencement. Et c'est le païen qui vient le lui rappeler. C'est terrible, ça. Est-ce que ce n'est pas terrible d'entendre parfois les païens nous dire ce qu'ils ont à nous dire? Dans cette condition, que faire? Eh bien, béni soit Dieu qui est fidèle et qui nous apprend au travers de cette page que dans l'obéissance défaillante qui est souvent la nôtre, et je voudrais pas par là vous mettre sous je ne sais quelle joug de condamnation, comme si j'étais moi appelé à vous condamner. Quelle horreur! Non, je suis à vous appelé à vous dire l'Évangile, à vous dire la patience et la fidélité de Dieu dont je vis moi le premier, à la patience de Dieu dont j'ai besoin moi le premier, parce que moi le premier dans mon obéissance, je suis souvent défaillant. Alors que faire? Chapitre 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. Oui, quand on est trouvé défaillant, il faut revenir au lieu où l'on a quitté la route. Lâcher la main de celui qui nous conduit. Cesser de l'écouter. Cesser de le prier. Faut revenir à lui. Ne voulez-vous pas revenir à moi? Revenez, revenez. C'est aussi le refrain de l'Écriture. revenez, repentez-vous, revenez. Conclusion. D'abord, j'aimerais vous rendre attentif au fait que l'évangile est suivi d'un livre. 4 évangiles suivis du livre des Actes des apôtres. Ce qui veut dire, si vous avez entendu l'évangile, quels actes vous attendent? Quels actes d'obéissance nous attendent? Si je veux dire, c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous bénit. C'est là que sa promesse va trouver son plein accomplissement. Dans l'acte d'obéissance qu'il nous propose. D'où votre réflexion qui n'est plus la mienne. Quels actes d'obéissance vous attendent dans la foi? Une dernière parole. Galates 1:15. Lorsqu'il plut à Dieu, dit l'apôtre Paul, de révéler à moi son Fils, sans consulter ni la chair ni le sang, j'obéis aussitôt. Je crois que c'est cela, entre autres, qui a fait de Paul un arbre puissant dont les fruits font encore le délice de nos vies. Tu es un arbre sur le chemin des autres. Il s'est révélé à toi, sans consulter ni la chair ni le sang. J'obéis aussitôt. C'est le secret de la véritable obéissance.